Maintenant qu'on est à huis clos, on peut se le dire, je fais une overdose du sujet Mbappé. On parle de lui tout le temps, partout, sur chaque plateau télé, chaque émission diffusée ou journaux imprimés, que l'on soit un expert sur RMC ou un vendeur de tapis sur TPMP, que l'on connaisse le football ou qu'on le suive uniquement sur Twitter en scroll, tout le monde a son avis tranché. Alors évidemment, quand il passe à côté de son match, comme face au Barça, c'est le défilé, la bataille entre ceux qui l'attaquent et ceux qui se sentent offensés. Mais alors la faute à qui? Qui d'autre que lui? Lui et sa communication faussement maîtrisée, ses caprices de diva et son combat de coq avec Luis Enrique. La faute à lui, qui oublie souvent qu'il est avant tout un joueur génial, plus qu'une célébrité, et que parfois, plus que parler et faire parler, laissez juste le talent s'exprimer. Alors si on dit que le silence est d'or, Kylian Mbappé devrait peut-être s'en inspirer pour qu'un jour, pourquoi pas, le ballon devienne doré. Salut à tous, on est de retour ici à huis clos pour le débrief de PSG Barcelone à J+2, ce qui va nous permettre de prendre un peu de recul sur le match aller et surtout de nous projeter sur le match retour. Pour faire ce débrief, je ne suis pas tout seul, nous sommes toujours un trio qui aurait peut-être un peu plus performé que celui du milieu du PSG mercredi dernier, avec à ma gauche Thomas, j'imagine un peu remonté.
Très déçu surtout, remonté aussi, mais de la déception d'abord, je ne sais toujours pas comment ils ont pu perdre ce match, honnêtement. Voilà, heureusement qu'on est là pour en discuter parce que je ne suis pas bien depuis 48 heures.
On va essayer de voir comment ils ont pu perdre ce match et en face de toi, il va peut-être t'aider à comprendre le Niklas Bentner de la FT Sport. Ça va mon Manu?
Ça va les gars, tranquille, écoute, 48 heures après, je ne sais toujours pas comment ils vont le faire au retour. Oui. Donc voilà, écoute, on aura l'occasion d'en parler.
Incertitude.
De Bentner, bravo. Hein. Franchement, c'est
vraiment. Ouais,
en fait, en te voyant, je me suis dit, voilà.
Ouais, c'est vrai, un petit peu. Ouais.
Aussi beau.
Mais Lucas Elsner, à l'époque, là, tu sais, quand on faisait aussi la classe foot, les gens disaient Lucas Elsner.
Aussi.
C'est l'apeu coup, tu vois.
Bah oui.
Aujourd'hui, donc, on va se plonger dans ce débrief de PSG Barcelone. On va aussi se projeter sur le match retour. On aura aussi un petit mot sur l'Olympique de Marseille qui s'est incliné à Benfica 2-1. Mais pour l'instant, on rentre directement dans le débrief de PSG Barcelone. Mercredi soir, les Parisiens recevaient donc les Barcelonais au Parc des Princes et ce sont les joueurs du Barça qui se sont imposés 3-2 avec un doublé de Rafinha, un but de Christensen et puis en face, dans un gros momentum, le PSG a marqué deux buts avec Dembélé et Vitinha. On va voir également les stats de ce match pour voir que le PSG avait la possession, comme quoi avoir la possession ça ne sert pas à grand chose. On voit aussi l'expecting goal qui est une nouvelle stat avancée qu'aiment bien les spécialistes de foot. Et là, on voit que c'est le Barça qui avait le plus d'occasions de marquer des buts, 1,78. Le PSG a fait plus de frappes et a fait plus de passes, parce qu'on l'a vu, ils avaient la possession. On va directement regarder la compo qu'avait choisi Luis Enrique. Les gars, elle n'était pas si loin de celle qu'on avait imaginée lors de la preview. Une seule différence, c'est que Marquinhos a été choisi à droite, à la place de Warren Zaïre-Emery. Thomas, premier avis, quand tu as vu cette compo, qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, j'ai compris tout de suite, et on a tous compris tout de suite, quel était le projet de jeu de Luis Enrique. C'est la première chose, au-delà des hommes et de leur position. Marquinhos n'avait pas joué dans cette position depuis 2015. On a compris qu'il voulait mettre de la technique, il voulait avoir des redoublements de passes, il voulait donc tout faire pour avoir la possession. Donc maintenant, on peut le dire, il s'est complètement gouré sur sa composition. D'ailleurs, la première mi-temps est insipide, et c'est à partir du moment où Lucas Hernandez repasse arrière-droit, alors que c'est un pur gaucher, que le PSG est là. Rentrée de Barcola aussi, que le PSG a commencé à produire son effort, entre guillemets, comme diraient les fans de Roulib. Donc, ouais, trompage complet de la part de Luis Enrique sur sa compo.
Manu, t'es d'accord avec cette analyse? Il s'est trompé avec le choix des hommes qu'il avait?
Il s'est trompé parce que clairement, à la mi-temps, il change tout. Donc, et tu vois d'ailleurs un autre PSG, tu vois une autre animation. Donc, clairement, il s'est trompé dès le départ. Je crois qu'en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est Luis Enrique nous a fait du Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il nous a encore expérimenter quelque chose. Ce schéma-là, on l'avait déjà vu notamment contre la Sociedad, mais avec d'autres hommes, et notamment ce rôle d'Asensio qui a été occupé par Dembélé, notamment du côté de San Sebastián. Donc tu te dis, est-ce que c'est pas un peu bricolé pour un quart de finale aller de la Ligue des Champions?
On avait l'impression que c'était un peu bricolé. On rappelle que Hakimi était out et Mukiele aussi qui s'était blessé, donc il a été obligé de mettre Marquinhos à droite. On va regarder directement les notes qu'ont mis l'équipe dans leur journal au lendemain de cette défaite. On voit que Beral Ronaldo a eu 2, c'est la pire note, que Vitinha a eu 7, c'est la meilleure note, et que Mbappé a eu 3, la star de ce PSG. Les gars, on fait ligne par ligne, on se concentre déjà sur le gardien, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre ami Donnarumma. Donnarumma qui est fautif sur 2 buts lors de ce match.
Comme ça, 2 buts. 3 buts, hein.
Sur 3 buts.
Ouais. Bah, premier but, la sortie mal maîtrisée, la main ça va direct dans les pieds de Rafinha.
Belle passe.
Le deuxième but, Beraldo se fait avoir, la relance directement sur un Barcelonais en 2 passes.
Okay.
T'as un top
à
but.
La relance.
Et la troisième, il ne sort pas. Pour moi, il y a clair, bah, ça compte aussi, hein.
Ça,
mais
non,
le ballon touche,
hein.
Mais le ballon touche, il n'y a pas but, hein.
Non, t'as raison.
Jusque-là, en fait, c'est surtout la fébrilité tout au long du match qui interroge. Parce que Donnarumma, on pensait qu'il avait passé une sorte de cap un peu mental cette année, qu'il avait été quand même diablement efficace. Diablement, c'est peut-être un peu fort, mais un peu plus efficace qu'il avait été par le passé. Et là, tu le sens fébrile dès le début. Tu sais, il y a le face-à-face avec Lewandowski où tu te dis, c'est parfait parce qu'il anticipe bien, il lit bien le jeu. Mais alors, la sortie,
ça, c'est bien joué.
Elle est cata.
Il a la réussite.
Il a énormément réussi.
Elle est cata, mais Beraldo est cata juste avant.
Oui, non, d'accord, mais tu le sens fébrile cette première sortie. C'est peut-être l'un des super barrés du match quand même qui te maintient à 0-0 quand tu commences à souffrir. C'est la première action d'ailleurs qui donne le là sur la suite de cette première période. Et même sur cette sortie là qui est l'un des bons faits de ce match, il est très 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 fébrile. Il y a deux faits où il va prendre les 3 points, c'est cette sortie là et lorsqu'il sort la frappe de Rafinha, je crois, à bout du doigt en
première période,
il te fait du bien. Mais c'est la fébrilité, et on va en reparler tout à l'heure, mais la fébrilité a atteint toute cette équipe du PSG. Mais en effet, quand t'es défenseur, d'avoir un gardien derrière qui est aussi fébrile, qui maîtrise pas ses sorties, qui maîtrise pas ce qui fait, ça insuffle pas de la confiance.
Thomas, il est fautif sur la qualification du Real il y a 2 ans. Il est fautif un peu contre le Bayern, mine de rien, sur le but de Coman l'année dernière. Cette année, il est fautif au match aller. Alors, on voit.
N'oublie pas l'Italie, hein.
Sur l'Italie, mais là, je parle vraiment du PSG. On voit sur les réseaux sociaux, évidemment, les tutos qui s'emballent et qui commencent à parler de remettre Navas. Pour toi, j'imagine que tu gardes sa confiance pour le match retour. Mais en cas d'élimination, qu'est-ce qu'on fait de Donnarumma?
Ça reste un jeune gardien, en tout cas dans l'âge, même s'il a beaucoup d'expérience. Et en fait, le gros souci, c'est que la gestion du gardien de but au PSG, c'est à l'image de ce qu'est ce club. Bling bling. Et lorsque tu as une certitude, donc Keylor Navas, hein, qui est clairement quand même le gardien lors des compétitions référencé, etc., et multiple vainqueur de Ligue des Champions, et bien tu le remplaces par un autre parce que c'est une lubie des dirigeants du club. Et à l'heure actuelle, on peut le dire, Donnarumma n'a jamais été meilleur que Keylor Navas. Je ne comprends pas aujourd'hui, là, je vous le redis, pourquoi il sort pas sur le corner. Vraiment, c'est une énigme totale. Bro, il y a une balle en cloche qui est très bien tiré d'ailleurs. Oui. Mais comment il va pas nous mettre un coup de poing là pour la dégager?
Il fait pas 1m60 quoi, le mec.
Non, il fait 3m50 et il ne sort pas. C'est terrible.
Exactement.
Terrible.
Et on connaît cette règle informelle dans les 5-50 où l'arbitre a tendance à protéger justement le gardien. C'est la zone du gardien. C'est, enfin, on pourra en vouloir aussi à la défense et au marquage.
Ouais,
on en reparlera.
Sa tête, Warren se fait avoir. Mais
exactement.
Si
mais c'est la zone du gardien.
Exactement.
Il doit être souverain. C'est là justement qu'il doit insuffler quelque chose, qu'il doit montrer du caractère vis-à-vis de ses coéquipiers aussi, tu vois.
Catastrophique. Vraiment, ça, j'avais. Là, c'était dur. Le troisième but sur une action anodine qui normalement dans les très matchs de très haut niveau ça n'arrive jamais, ça. Comment il ne le sort pas, tout le monde le regarde terrible.
Il a un langage corporel quand même, ce grand dadais là, de l'air toujours penaud, l'air toujours fautif, et tu le sens toujours très stressé. S'il est stressé, c'est peut-être aussi que devant lui, la charnière centrale, ils étaient pas plus confiants non plus. On l'a dit, Luis Enrique a fait le choix de mettre Hernandez à droite, déjà assez surprenant, et Beraldo à gauche dans cette charnière centrale. On va se concentrer quand même sur le crack du PSG qui fait une bonne saison depuis qu'il est arrivé cet hiver. On lui donne la confiance là pour le match de la Ligue des Champions. Déjà, est-ce que pour vous c'était trop tôt de mettre Beraldo, 20 ans, titulaire dans un quart de finale contre le Barça?
C'était déjà trop tôt quand il est arrivé. Et que
même avant le match, tu disais ça?
Non, mais regarde, en 8e de finale, je crois que c'est un de ses premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Il est titulaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est quand même. On sait que l'acclimatation, elle n'est jamais facile pour des mecs qui viennent d'aussi loin. On l'a vu par le passé au Paris Saint-Germain avec d'autres, avec des Brésiliens. Donc je veux dire, c'est. Je trouvais ça. Moi, je trouve ça. Enfin. Après, tu me diras, est-ce que le foot est encore une question d'âge? Parce qu'en face, tu regardes Koubarsi, il a fait un match extraordinaire.
Il a 3 ans de moins.
Et il a 3 ans de moins, donc c'est complètement délirant. Mais non, il s'est fait complètement déchirer. Là, par contre, il y a peut-être une circonstance aussi atténuante. C'est pas que il n'a pas que fait dans son froc, il y a peut-être aussi le match de Lewandowski qu'il faut mettre en valeur, parce que Lewandowski a été juste extraordinaire dans son rôle, qui était peut-être inattendu aussi pour la charnière centrale du Paris Saint-Germain. On s'attendait peut-être pas à voir Lewandowski en point de fixation comme ça. Ça a peut-être été un peu compliqué avec beaucoup de jeux directs, on s'attendait peut-être pas en tout cas à ça, mais Il faut dire que Beraldo a craqué aussi parce que Lewandowski a fait un incroyable
Beraldo
match.
Non seulement a craqué sur sa performance individuelle, mais il est aidé par absolument personne. C'est-à-dire que Luis Enrique lui a clairement demandé.
Marquis est un peu couvert, surtout en deuxième.
Oui, le deuxième qui a été remplacé. Ouais.
Le Barça, ils ont eu un plan de jeu parfait. Ils ont compris assez rapidement sur qui il fallait jouer. C'est Beraldo, en même temps, c'est le plus jeune. On n'a toujours pas compris pourquoi Dalilo Pereira était en conférence de presse avant le match et n'a pas joué. Normalement, c'est les titulaires qui sont là. On n'a toujours pas compris. On aurait préféré peut-être un petit peu plus d'expérience. Mais donc, circonstances atténuantes, peut-être. Sur le plan de jeu du Barça qu'il l'a ciblé, et puis circonstances atténuantes parce qu'il n'a jamais été aidé. Donc on lui a demandé de le suivre, décrochage de Lewandowski sur le premier but, il le suit, il se fait ouvrir, mais il n'y a personne qui est derrière pour essayer de colmater, etc. Tu parles de Marquinhos, les espaces qu'il y a à la fois sur la sortie, la première sortie de Donnarumma, et puis ensuite sur le but, il a poil le mec. Donc oui, il est trop jeune, oui, clairement, il n'aurait peut-être pas dû jouer, mais à côté de ça, il est adoré par son coach parce que c'est le seul qui peut faire une passe à 20 mètres, à 25 mètres. Donc voilà, il y a plein de choses à tirer tout ça. Le constat, c'est qu'il a pris un 3 et c'est tout à fait mérité.
Et il est un peu en crise de confiance, mine de rien, depuis sa sélection avec le Brésil. Il se prend le petit pont de Daniel Mo, là, le but de l'année contre l'Espagne.
C'est clair.
Derrière, il se fait expulser contre l'OM et puis il y a ce match contre le Barça. T'as raison d'appuyer sur un truc, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même une tactique qui était qu'on lui a demandé de coller Lewandowski. Après, Lewandowski, il lui a pris le métier, quoi. Il j'ai moins de calme que toi, j'ai moins de jus, mais je vais t'amener, je vais te faire comprendre que je connais mieux le jeu que toi. Et
le contrôle orienté sur le premier but, exceptionnel.
C'est incroyable.
Exceptionnel. Vitinha, bravo d'ailleurs, qui le laisse passer. Oh, bah allez, vas-y, mon grand. Vas-y, allez, jouez, c'est l'arbitre, quoi, comme ça, en fait. Vas-y, grand.
Mais
c'est terrible. Mais t'as raison, mais c'est comme ça qu'on apprend.
Mais c'est aussi le sens du sacrifice de Lewandowski. Ça, franchement, c'est quand même assez incroyable quand tu vois un joueur de sa stature, un joueur qui a ce vécu-là. On en reparlera tout à l'heure avec le Mbappé, mais franchement, il s'est sacrifié. Je suis d'accord avec toi, mais il s'est sacrifié pour son équipe. Oui, il a libéré des espaces. Il Rafinha fait le match qu'il fait. C'est parce qu'il y a Lewandowski qui fait cet abattage-là. Et il a essoré et Hernandez et Marquinhos qu'on va mettre aussi également dans l'eau dans la deuxième période et surtout Beraldo. Tu sais, juste pour continuer cette défense, je sais pas si tu vois l'action en fin de première période. C'est peut-être sur un coup de pied arrêté où t'as Hernandez et Marquinhos qui ne se parlent pas, qui sont quasiment à faire un cafouillage. Ça montre quand même l'état d'esprit de cette défense. Ça montre la fébrilité du Paris Saint-Germain dans cette soirée.
On pensait que Hernandez allait être un peu en patron, mine de rien, dans cette défense, parce qu'il a des coronesses, comme on dit. Il l'a toujours montré, notamment en équipe de France. Là, je l'ai trouvé très moyen. On en parlait juste de la sortie de Donnarumma, un peu kamikaze. C'est lui qui se fait prendre dans le dos par Rafinha. Donc, ça nous amène à cette question. On imagine qu'ils vont bosser le PSG cette semaine et qu'ils ont vu que Lewandowski leur a fait beaucoup de mal. Avec quelle charnière vous repartez pour le match de mardi? Hakimi sera à droite.
J'ai envie de te dire Marquinhos, Hernandez. C'est ça, exactement.
Personne remet Beraldo.
Moi, je pense qu'il va jouer.
C'est dur.
Il aime beaucoup. Hein. Il aime
le problème, c'est dur parce que s'il connaît un match retour qui est très, très compliqué, ce mec qui vient d'arriver en Europe, on le remet dans le grand bain, admettons qu'il se craque une deuxième fois, tu peux le perdre pour le reste de la saison. Ça peut être compliqué de revenir derrière, ça peut mettre du temps. Il y a quand même un truc à expliquer à travers l'errement de cette défense. Moi, pour moi, il y a un manque d'intensité, il y a clairement un problème de fébrilité, mais peut-être aussi que ce Paris Saint-Germain-là, il a été étonné par le jeu proposé par le Barça. On le disait dans la preview, le Barça, jeu de possession, a pas mal évolué ces derniers mois, est devenu une redoutable équipe en transition, mais là, faut dire qu'on a eu un Barça qui n'a fait que du jeu direct, quelque part. Et ces longs ballons envoyés sur Lewandowski, peut-être que ça... Moi, j'ai l'impression que ça a un petit peu perturbé et le milieu de terrain et la défense, tu le vois notamment sur la première période, lorsqu'ils prennent le momentum après le face-à-face avec Donnarumma.
Mais Luis Enrique s'est fait ken, hein. on peut tourner ça comme on veut, t'es au parc, machin, la possession, il met que des mecs techniques, il n'y a pas d'impact au milieu.
Presque prétentieux.
Xavi,
presque prétentieux.
Carrément prétentieux.
Qu'est-ce qu'il pensait avec son milieu de terrain qu'il allait faire des
jeux
comme
Ruiz,
ça, De Jong,
je suis plus rapide que lui, j'ai pas joué au Barça depuis 10 ans.
Bien sûr.
Mais c'est catastrophique.
On va venir sur. On parle de ce milieu de terrain. Il a donc décidé d'aligner Ruiz, Vitinha et Lee.
Ça, c'est le terrain de Ligue des Champions, ça.
Est-ce que... Non, je pense que...
Surtout un lendemain de City-Real. Ça fait un peu peur.
T'as raison.
et puis dans la preview, en fait, il n'y a pas de surprise. Il y a Vitinha qui était très bon, comme il a été depuis le début de saison. Il y a Fabian Ruiz. Qui est Fabian Ruiz? Il y a un moment, c'est un joueur
limité,
moyen, limité, joueur d'Europa
League. Ce serait parfait à l'OL.
Mais pas un joueur de Ligue des Champions. Ah bah oui, mais un peu à la Matic. Vraiment, ce grand gay qui...
Bon, on respecte Matic quand même.
Ah, mais Matic maintenant, en fin de carrière.
Oui, oui. Ouais, sauf que lui, raison, il est encore assez jeune.
Et lui, il a son prime, lui. Hein. Oui.
Lui, il est, lui, il est voilà, top, top.
Oh, les gars, quand il est juste devant la surface et qu'il met quatre pas, mais d'une lenteur pour frapper, mais alors que ça, c'est des occasions de but de malade à top niveau. Imaginez De Bruyne. Bon, ok, je fais une offense là quand même à notre Belge préféré. Comparer De Bruyne à Fabien Ruiz, terrible.
Finis vite cette comparaison.
Ouais, ouais, ouais,
toutes les décisions qu'il prend, elles sont mauvaises. Dans le combat, il est battu.
Sauf sur le but. Sauf sur le but.
Oui,
sur le but, il fait une magnifique passe dans le timing pour Vitinha. Oui.
Le problème, c'est que c'est l'exception qui confirme la règle, le but. Tu vois, parce que c'est la seule action collective qu'on ait vue dans ce match. Sinon,
c'est ce qu'on appelle un joueur yaourt nature, hein. Sans saveur, sans saveur. Mais le pire de ce milieu de terrain, c'est Lee. C'est Lee. Et on en parlait. Vous l'avez dit. Vous aviez des inquiétudes autour de ce joueur. On sait que Luis Enrique, comme Beraldo, il adore Lee. Pourquoi Lee aujourd'hui est titulaire? Est-ce que c'est pas le maillon faible de ce milieu de terrain?
C'est fou. À l'époque de la classe foot, on aimait se marrer, tu sais, des frappes de pupille de Marco Verratti. Lui, c'est une frappe de poussin, frère.
Alors qu'il a un bête de pied, hein.
Ouais,
il a un vrai pied, on peut pas lui enlever.
Bah, il
a un bon pied.
Techniquement, généralement, il est assez adroit, mais je vois pas faire de différence. Enfin, tu sais, c'est pas un mauvais joueur, mais.
Il tricote, il fait pas de différence.
C'est pas du tout son niveau, tu vois, c'est.
Terrible. Mais honnêtement, on n'a pas compris. Pourquoi il n'y a pas plus d'impact au milieu? Pourquoi Warren? Alors, peut-être qu'il était blessé, mais bon, il est rentré. J'ai vu un mec à 2000%. Pourquoi tu ne fais pas jouer Warren? Pourquoi tu ne fais pas jouer Vitinha? Après, ton troisième milieu, ça ne peut pas être Lee. Ça,
non, c'est pas possible.
Tu veux mettre ton Fabien Ruiz? Ok, vas-y, va jusqu'au bout dans ton délire. Mais le fait qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu depuis plusieurs semaines, alors qu'il est inoffensif, Lee, c'est incompréhensible dans un match de si haut niveau.
Ce qui est incroyable, c'est que tu n'as pas autant de talent que le FC Barcelone au milieu de terrain.
On rappelle juste Gundogan, De Jong
et Sergi Roberto
en face.
Qui est remplacé à la pause par Pedri.
Qui
change un peu le match d'ailleurs en rentrant.
La passe, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas un mec qui est capable de faire ça.
Elle est juste magnifique. Mais tu n'as pas autant de talent que le FC Barcelone. Mais tu joues quand même avec des mecs à profil technique. Voilà, pour en guise d'opposition, tu prends même pas tes meilleurs mecs techniques, tu vois, parce que quelque part il aurait pu faire aussi également Ugarte par exemple, aurait peut-être eu sa place, tu vois, dans ce milieu. Et en fait, je veux dire, la solution pour le Paris Saint-Germain, c'est de mettre Dubois maintenant. Tu sais que t'as pas les joueurs pour aller rivaliser sur ce côté technique, ce côté intelligent, etc., etc. Tu dois mettre des joueurs, tu dois des mecs qui vont mettre du bois.
Luis Enrique veut jouer comme Barcelone, mais avec des joueurs qui ont le niveau de l'Espagnol Barcelone. Donc tu vois, ça pose un peu problème. Comme pour la défense centrale, les gars, si on repart sur le milieu, quel changement? J'imagine que vous sortez Lee. Vous mettez qui? Vous mettez Ugarte, qui est complètement sorti de la rotation et de l'esprit de Luis Enrique. Vous mettez Warren.
Tu mets Warren titulaire. Vitinha aussi. Je pense qu'il va remettre au moins pour débuter Fabien Ruiz parce qu'il l'aime beaucoup et qu'il aime son sacrifice tactique entre. Je mets des grands guillemets quand je dis ça, bien sûr, hein, pour compenser le non-sacrifice tactique de Kylian sur la gauche. Donc je pense qu'il va partir avec ces trois-là. Et puis.
Ou est-ce qu'il en met pas un de plus au milieu? Parce que son idée, c'était quand même à la base de partir avec Asensio.
Faux-neuf,
qui redescend à la perte du ballon, qui devient quasiment milieu relayeur gauche. Est-ce que son truc pour le match retour, c'est pas de mettre un milieu en plus et d'être en supériorité numérique?
Ça se tient, mais en fait, la composition du milieu va dépendre de qui tu mets en attaque aussi. Tu vois, il aime beaucoup Barcola. Barcola fait une super entrée, au moins dans les intentions et dans la réalisation. Encore une fois, Fabien Ruiz et Barcola dans la vitesse d'exécution, parfois c'est hallucinant. On peut pas lui enlever qu'il met une barre. Donc tu peux aussi te poser la question. Comment tu fais pour battre cette équipe du Barça? On l'a beaucoup dit, tout le monde le savait, jouer dans le dos de Cancelo en première mi-temps, tu l'as pas vu. Tu changes, tu mets Dembélé à gauche dans la deuxième mi-temps, tu mets Barcola à cet endroit-là avec Warren et avec Lucas Hernandez qui a été très bon, tous les trois sur l'aile droite, et ben t'as eu plein d'occasions. Donc voilà, il y a la question du milieu, tu vois aussi la lier à l'attaque.
C'est là où le retour d'Hakimi va faire du bien. Tu parlais de ce côté ce fameux flanc gauche du Barça avec Cancelo qui aime bien se projeter là, Hakimi en contre-attaquant avec l'aide de Dembélé, on voit la connexion depuis le début de saison, ça devrait
mais
faire
ça
mal.
C'est dingue, on en parlait en preview, on savait qu'il fallait attaquer, appuyer sur ce côté gauche.
Mais t'as pas les mecs.
Il a fallu.
Mais le deuxième mi-temps, tu
te rends compte en deuxième mi-temps que. Alors, c'est pas son poste, Hernandez, de le mettre à droite, mais c'est quand même un mec qui se projette plus que Marquinhos. Et que Marquinhos, tu peux pas appuyer sur ce côté. Et Barcola, à la différence de Dembélé qu'on espérait voir prendre un peu la profondeur, il y a un moment, il a les ballons toujours dans les pieds. Donc, il fallait du Barcola.
Dembélé, Kylian, Mbappé, même combat. Tout dans les pieds, zéro profondeur. On dit ça encore que Dembélé à 2-2 a une occasion où il met sur le poteau. Je ne sais pas comment il a raté lui encore. Mais
je ne sais pas comment il a mis son but non plus. Hein,
mais lui non plus, hein, bah, parce que grâce à la glissade.
C'est un centre.
Ouais. Mais pour le coup, c'est une passe en profondeur, une belle passe et il a un face-à-face. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est que dès que tu as un peu de profondeur, bon, bah, t'es dangereux. Exactement. Mais bon, ils ont besoin de faire 60 minutes pour le savoir, ça vraiment.
On va en parler de Dembélé. Évidemment, on ne va pas parler d'Asensio ni de Ramos qui est rentré puisque les numéros 9 ont eu aucun impact dans ce match. Mais ça pose d'ailleurs une question. Hein, si tu n'as pas 9 capables d'appuyer sur cette défense, est-ce que tu dois replacer Mbappé? On en reparlera. On commence par Ousmane Dembélé. On va voir les stats de son match. Il met un but et j'ai mis un titre volontairement un peu provocateur. Est-ce un but qui cache la forêt? Puisque finalement, il met un but, on le voit, il fait aussi une célébration face à son ancien club, il s'est pas privé. Ouais. Et j'ai vu les supporters.
Ça fait beaucoup parler.
Ils avaient bien la haine parce que vous vous souvenez, ils avaient mis des maillots Dembélé quand il était blessé et tout. Donc,
c'est les mêmes mecs qui ont fait le salut nazi là?
Oui. Ouais. non.
Au Barça?
Ah bah il y a des supporters, oui, débiles.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est pas sur Twitter, heureusement.
Ah non, oui, bah je parlais pas sur Twitter, je parlais au parc. Hein.
Ah, oui. Et qui ont fait les cris de singe. Bravo, bien inspiré. Ouais, bravo, 3 duels de remportés, ce qui est peu, et tu 21 m'étonnes. Ballons de perdu. Qu'est-ce que vous pensez du match d'Ousmane Dembélé?
Le but change tout. Le but change tout aux conclusions que tu peux tirer, parce qu'en première période, moi, j'ai envie de casser ma télé. C'est-à-dire qu'il y a des bons ballons, il y a des bons ballons à exploiter, toujours le dribble de trop, jamais la bonne décision, et pas d'efficacité. Tu casses rarement la ligne, t'apportes rarement le danger. Alors, on peut pas lui retirer ce but parce que c'est un exploit personnel. La frappe, j'étais même, je pensais que c'était fini, qu'on verrait
plus jamais ça. Ter Stegen, il a regardé, fiu.
Exactement.
Mark Lenders. C'est incroyable.
C'est quand même un coup de pétard qui change. Il y a le changement tactique qui te change le match, mais ce but-là derrière te emballe le match, te met dans une euphorie, dans une folie. Donc son but, il est très 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 important, mais après il retombe dans les écueils qu'on lui connaît. Et là même la différence, c'est que tu vois la semaine dernière, on disait c'est un excellent dribbleur et puis lorsqu'il rentre dans les 25 derniers mètres, c'est
danger.
C'est ouais, danger mais non. Et danger mais non parce que devant le but il vendange ou il tente pas. Et là le problème c'est que même je trouve dans son côté joueur libre, casseur de ligne, etc., je l'ai pas vraiment retrouvé comme je l'attendais.
Thomas, je vais venir vers toi. Tu l'as dit, c'est pas vraiment un casseur de ligne. Pour moi c'est encore moins un ailier maintenant en 2024 parce que on le disait, il prend jamais la profondeur. Mmh.
Ce mec
on le voit meilleur en deuxième mi-temps quand il est replacé un peu axe gauche, un peu axial.
Milieu offensif gauche bizarre là.
Où est-ce que tu veux le mettre au match retour?
Ah mais moi j'ai envie de le voir à droite, j'ai envie de le voir long ligne. Hein.
Tu veux le voir?
Je continue à vouloir. J'ai envie qu'il soit là-bas parce que dès qu'il arrive à avoir des 1 contre 1 sur le papier, il est censé faire des énormes différences. On l'a absolument pas vu en première mi-temps. C'est inexplicable. Ils sont jamais allés le chercher. Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, j'ai envie de le voir là-bas quand même à droite. Je pense que c'est son meilleur poste. J'ai pas envie de le voir 10. Il perd trop de ballons. Il perd des ballons. T'es à 60 mètres. Le gars, il perd la balle derrière et t'es complètement à la ramasse. Tes défenseurs sont 1 contre 1. Donc, il a tellement de déchets dans son jeu que l'endroit où ça va te faire le moins mal, c'est s'il le perd à droite, là-haut, avec plein de mecs derrière. Donc, c'est terrible d'y aller comme ça, c'est un petit peu pessimiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Son match, là, pour moi, il est catastrophique. Alors, il met un top but, t'as raison, il est important, il faut jamais enlever l'importance d'un but. Mais sur la fin du match, là, il a une occasion, encore aujourd'hui, je sais pas comment il a raté, je vous le dis, hein. Comment il l'enroule pas, allez, il y a...
Ah si, on sait comment il l'a raté, puisqu'il a toujours raté celle-là.
Il la tape mal, elle part un peu droite comme ça. Je sais même pas comment... Quand il tire, on est tous d'accord qu'on est sûr qu'il va marquer?
Ah, clairement.
T'as gagné loin? Non, quoi, comme ça, non. Mais, toi, t'es sûr qu'il va rater?
Moi, je suis surpris qu'il arrive à toucher le poteau. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est soit sur le gardien, soit à côté.
C'est terrible, là tu... Bon, en tout cas, avec tous les matchs que j'ai vus, un gars qui arrive sur son pied droit pour enrouler, d'habitude, c'est but, à ce niveau-là, bon, voilà. Les louches à la fin.
Ah ouais, non, qu'est-ce qu'il aime ça?
C'est un rugbyman, c'est Antoine Dupont en fait le mec. Il fait les grandes chandelles, hop, la balle elle arrive comme ça. Bon, bref. Après, Paul, qui est juste derrière, dit un truc très juste, c'est que lorsque Dembélé a la balle, tu sens qu'il peut se passer quelque chose.
Oui.
Ça, c'est une réalité.
C'est son rôle dans le système de Luis Enrique.
Il n'a pas profité aussi de la super défense du Barça sur Mbappé. On va en parler maintenant, mais c'est lui qui aurait dû mettre ce doublé. En fait, match de Rafinha, c'est ce qu'aurait dû faire Dembélé. Mercredi soir.
C'est clairement ça. On en parlait dans la preview comme un facteur X, mais ça aurait pu être un facteur X si Kylian Mbappé avait fait un gros match. Mine de rien, là, tous les regards étaient presque portés sur Dembélé, tellement Kylian Mbappé était inexistant. On va le voir en stats. Il a fait 3 tirs dans ce match. 3 tirs pour Kylian Mbappé, c'est rien.
Zéro cadré.
3 fois hors jeu. 3 fois hors jeu.
Grossièrement.
On en reviendra, on en parlera, mais parce qu'il fait pas les efforts. 2 duels de remportés et 13 ballons perdus. Kylian Mbappé, a raté son rendez-vous. Est-ce que Kylian Mbappé est dans le doute pour vous, même si depuis des semaines, sa communication, c'est vous voyez un joueur perturbé? Je pense pas. Et pour
je sais pas si le mot c'est doute, ce qui est sûr c'est qu'il est plus du tout connecté à ses coéquipiers. En tout cas sur le match là c'est assez clair, autant que la Real Sociedad, il a trouvé des espaces, il marque, bon bah quand tu marques tout est simple. Quand tout va bien de toute façon, tu sens la complicité avec tes potes. Là, il n'a jamais fait l'effort à la fois de se replacer, il a même pas fait l'effort par moment de redescendre, toucher des balles, retrouver un petit peu de sensation, se rapprocher un petit peu de ses coéquipiers. Il a été clairement dans un truc, je vais faire la différence tout seul, par des dribbles, parfois par des passes, il a fait quelques
passes. Surtout par des passes, moi je l'ai pas assez vu justement à tenter des dribbles, je trouve.
Le gros truc de Kylian, c'est qu'il est exactement dans ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Il y a une défense qui est à 200 000% focus sur lui, donc prise à deux, prise à droit. Personne ne peut passer des mecs de ce niveau-là quand il était un contre deux, un contre trois. Donc c'est aux autres de faire la différence. Et les autres ont eu des espaces. Et avec l'équipe de France, les autres arrivent à performer dans ces moments-là. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de frustration quant à son attitude et quant à son implication. Mais l'autre constat, c'est que tactiquement, ils se sont fait avoir. Et lui, il n'a pas répondu en bougeant un petit peu. Pourquoi pas aller à droite juste une fois pour voir ce qui peut aller se passer de l'autre côté. Donc ouais, il y a beaucoup de déceptions sur ce match.
Manu, juste, il disait qu'il ne pouvait pas faire mieux parce qu'il a été bien pris. Moi, je me souviens du match contre le Maroc avec l'équipe de France. Ce n'est pas le même foot, le foot de sélection et le foot de club. Mais il était pris aussi.
Je pense plutôt à celui d'Angleterre.
L'Angleterre aussi.
Oui, t'as raison. Mais ça libère l'espace à Griezmann, justement.
Oui,
mais ce que j'ai vu en sélection, c'est quand même un mec qui arrive. Il y a des moments, quand même, on le voit faire une différence. Là, on ne l'a pas vu une seule fois. Et je trouve qu'au-delà de son niveau de jeu, il y a quelque chose de mental.
Alors, il y a mental. Et il y a une théorie qu'Habib Bey a donnée à l'antenne d'ailleurs, et dans l'après-match sur Canal+. Et en fait, c'est une théorie avec laquelle j'avais pu discuter avec lui justement, parce qu'il est l'entraîneur du Red Star et qu'on aime bien parler football avant les matchs. Et il disait, j'ai parlé de la gestion de Mbappé par Luis Enrique. Et Habib Bey m'avait dit, le problème, c'est que... Et Habib Bey vénère le football d'intensité. C'est-à-dire l'intensité doit être le premier ingrédient et ensuite on parle du reste. Et il dit, le problème, c'est que avec son temps moyen de 60 minutes de jeu depuis qu'il a annoncé à son président qu'il quittait le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, il dit, je sais pas dans quel état le mec va arriver pour un quart de finale de Ligue des Champions. On voit un Mbappé quand même assez emprunté depuis de nombreux matchs.
Que ça soit avec... Il a pas marqué, c'est ça?
Exactement. Hein, enfin, il y a eu le match contre Rennes.
Ah mais compte pas, il a pas fait exprès celui-là.
Mais voilà, c'est ça.
C'est vrai, il a fait la décision en demi-finale.
Avec l'équipe de France, pardon. Moi, c'est Mbappé qui m'a laissé sur ma faim, mais de la même manière que le match d'hier. Donc, t'as raison, il y a peut-être un argument mental. Peut-être qu'il a l'esprit ailleurs. Peut-être que dans l'intensité, peut-être quelque chose qui est brisé avec Luis Enrique. Moi, je t'avoue que j'ai jamais voulu commenter cette relation. On a eu Nico et Luis. Maintenant, on a Luis et Kiki, tu vois.
Boulard,
c'est ça,
direct.
Exactement. Ça m'a jamais intéressé ce sujet-là, mais peut-être qu'on voit aussi aujourd'hui des conséquences. Je sais pas, en tout cas. Mais intensité et mentale, clairement, il a pêché. On n'a pas vu le Mbappé qu'on connaît. Le Mbappé qui tente le dribble. Il a tenté beaucoup plus de passes que de dribbles. Le Mbappé qui joue juste. Le Mbappé qui est impliqué. Et c'est ça, moi, tu vois, qui me pose problème aussi. C'est qu'on juge pas Kylian Mbappé comme un joueur normal. Quand il réclame plus de responsabilité, quand il est là à réclamer plus d'autorité, que son bien manger, bien dormir, quand c'est un joueur qui décide de la direction sportive, de la direction de la communication, quand c'est un joueur qui place ses proches dans le board du club, tu ne juges pas Kylian Mbappé comme un crack, tu juges Kylian Mbappé comme un franchise player. C'est pas vous que je vais l'apprendre, les gars, parce que je suis un novice en basket et que c'est un concept qui nous vient justement du basket. Et quand tu vois que c'était peut-être son dernier match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, dans un Parc des Princes, qui a été, les gars, extraordinaire. Ouais. Franchement, une ambiance de dingo. Bah là, t'es obligé de lui tomber dessus. Ah, t'es obligé d'être déçu et t'es obligé de... Ouais, t'es obligé de tomber dessus à la hauteur, en tout cas, de tous les faits et de tout ce feuilleton Kylian Mbappé depuis 2-3, même plus au Paris Saint-Germain.
On va clôturer ce débat Mbappé, mais c'est vrai que moi, ce qui me choque, c'est que, en fait, c'est de l'irrespect. À un moment donné, le langage corporel du mec. On a pu voir des joueurs dans l'histoire avoir des sauts d'humeur comme ça sur le terrain, tu le vois. Je pense à Cristiano Ronaldo. Mmh. Il a toujours été impliqué, mine de rien, dans le collectif et appliqué à faire la décision dans un match. Là, c'est limite, il disait, bon les gars, de toute façon, j'ai pas envie d'en faire plus, même si c'est un raccourci, hein. J'ai pas envie d'en faire plus, et toute cette com, depuis des semaines, des mois, des années, c'est en train de le pourrir, et ça pourrit toutes nos analyses, parce que mine de rien, tu peux... C'est pas de sa faute s'il perd le PSG mercredi.
Mais c'est de sa faute s'il gagne pas aussi.
Mais c'est de sa faute, oui, mais le premier joueur auquel tu penses quand tu sors du match, tu penses à Kylian Mbappé.
Bah, c'est la superstar après.
Mais c'est la
normal,
superstar, mais il a apporté autre chose. Il a apporté autre chose dans cette communication, je trouve, où tous les regards sont étaient déjà sur lui, mais le sont encore plus.
Franchise player.
Ouais, et à côté de ça, si sa vieille frappe à la fin où il doit décaler à gauche, ouais, elle est contrée, elle rentre, et ben on l'analyse, elle est complètement différente. C'est ça qui est dingue avec les joueurs de ce niveau-là. Contre au match aller contre la Real Sociedad, il fait pas un énorme match. Par contre, il marque le but sur le corner qui commence à enclencher la qualif. Donc c'est ça qui est dingue. Et encore, et on va y revenir maintenant. Il y a un match retour.
Non. Oui,
donc,
mais c'est ça.
Si tu fais un grand match, on oubliera ce. C'est ça qui est
exactement
dingue. Ça peut aller vite.
Et je vais te dire, la presse espagnole, au lendemain du match, a parlé de l'arrogance de Kylian Mbappé. Presse espagnole, c'est presse madrilène, presse barcelonaise qui était pour le coup. Exactement. Les deux étaient d'accord sur l'arrogance de Kylian Mbappé. C'est pas rien de parler de l'arrogance d'un tel joueur. Est-ce qu'il va nous faire le truc, t'es pas content, bim, triplé, tu vois? Je pense que, non, mais c'est vrai, tu vois. Ça peut être aussi le sursaut du grand champion, c'en est un. On va pas.
On sait qu'il adore écrire ses histoires.
Exactement.
C'est le meilleur moyen d'en écrire une très belle. On se projette sur le match retour. On va voir les cotes de notre partenaire Winamax qui sponsorise évidemment toute notre chaîne et on les remercie. Le FC Barcelone est donc favori à domicile. On rappelle que c'est pas au Camp Nou, hein. C'est au Stade Olympique de Barcelone. 2-10, 3-70 le nul et 3-10 pour le PSG. La qualification pour le PSG est à 4. Les gars, juste avant de vous demander votre prono, on va voir un petit message fait par toi, Thomas,
oui,
sur notre offre avec Winamax.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Les gars, on se projette sur le match retour. Est-ce que vous y croyez pour y croire? On a essayé quand même de trouver des arguments d'y croire. On a fait un petit tableau avec trois raisons de croire au sursaut du PSG. La première, c'est le réveil de Kylian Mbappé. On en a parlé longuement juste avant. L'état d'esprit changé, les gars. Vous êtes d'accord que l'état d'esprit était pas bon sur ce match aller?
J'ai vu certains comportements qui ne me faisaient pas penser à un quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça. Ça, il y a aucun doute. Donc beaucoup plus d'intensité. Tu le disais pour Habib Bey, c'est le premier des ingrédients, c'est une évidence. Tactiquement, t'as le droit aussi. Tu sais, l'intensité, la concentration. Ensuite, ça se ressent dans la qualité de tes replacements, sur les efforts que tu vas produire, sur l'intelligence de pas être trop loin. Parce qu'on l'a pas dit, mais là où le PSG s'est fait complètement ouvrir, c'est qu'il y avait des espaces, mon gars, derrière les milieu qui était dramatique. Donc ouais, l'état d'esprit, ça va être primordial. De toute façon, pour faire un exploit, parce qu'on doit parler d'exploit,
ah oui,
de se qualifier après avoir perdu 3-2 à domicile, déjà, aller à l'extérieur et y aller, c'est improbable, mais encore plus contre une équipe comme un club comme le Barcelone. Donc, état d'esprit changé, si tu fais l'exploit, de toute façon, tu fais le match parfait. Donc l'état d'esprit va être au top.
En fait, le truc, c'est que t'as joué que 25 minutes sur le match aller. Donc ce serait bien déjà de faire 90 et plus si affinité. Moi le souci que j'ai, les gars, je vous le dis, hein, problème tactique. Donc t'as été dominé tactiquement, techniquement, en termes d'animation et d'ingrédients. T'as été dominé dans la gestion des momentum.
C'est
parce
une
que...
recette de
non mais ouais, une recette bien dramatique, hein. T'as été dominé dans la gestion des momentum parce qu'on oublie de le dire. À 2-1, t'as possibilité de mettre le 3-1, tu le fais pas, t'es puni. À 2-2, t'as possibilité de mettre le 3-2, tu le fais pas, t'es puni. Donc ça aussi, va falloir que le Paris Saint-Germain monte en gamme à ce niveau-là. En vrai, il y a que le Parc des Princes qui était à la hauteur de ce quart de finale aller. Donc soit tu dis qu'ils ont été tellement minables sur le match aller qu'ils peuvent que faire mieux au retour, et donc il y a peut-être des motifs d'y croire, mais honnêtement, moi j'ai quand même l'impression que ce FC Barcelone est au-dessus du PSG.
Mais
aussi,
et t'as raison,
on a peut-être pas assez dit aussi, hein.
Et dans cet état d'esprit, commencer directement le match, on sait que le Barça est un peu ce qu'est le PSG aussi, hein,
c'est
en
vrai.
France
fébrile.
Ils sont fébriles, et que si t'arrives à marquer le premier but, mine de rien, ça peut cogiter dans la tête. Le troisième point, et ça va nous permettre d'en parler un peu plus longuement, c'est Luis Enrique, enfin peut-être un peu de stabilité. Bon les gars, dans la preview on disait avant Luis Enrique, là clairement
sur l'expérience, c'était, hein.
Là c'est 1-0 de Xavi, oh. et de loin.
Oh,
ouais,
vache.
De loin, il y a quand même un truc que je retiens. Rappelez-vous du match de poule contre Newcastle où Paris se fait ouvrir et à la fin Luis Enrique s'était complètement trompé, n'avait pas changé grand-chose pendant le match et arrive devant en conférence de presse et dit non mais c'est vous qui avez pas compris, c'est moi qui avais raison, tu vois. Là ce que j'ai vu quand même, c'est un Luis Enrique qui se plante. Tu me diras, c'est le minimum quand t'es coach, mais au moins à la mi-temps, il change quelque chose.
Il change tout.
Il change sa copie.
Il change tout.
Et il y a un effet et il se passe quelque chose. Attention, attention, match retour. Quand on dit Luis Enrique est stable, c'est peut-être d'arrêter. C'est ce que dit Riolo, c'est espèce de d'essai de chimiste là en permanence, etc.
Kinder surprise, c'est plutôt rigolo.
Il a raison. Moi, je pense qu'il va trop loin dans la critique vis-à-vis de Luis Enrique. C'est pas que la défaite de Luis Enrique non plus autour de ce match. En tout cas, pas que tactique. Il y a peut-être du management, il y a des attitudes, on en a beaucoup parlé. Mais qu'il arrête les essais. Guardiola s'est perdu avec ça au début avec City avant d'aller chercher la Ligue des Champions. Luis Enrique qui met aussi les mecs, on va dire, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à des postes et des rôles qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Ok, c'est bien de changer de dispositif tactique en cours de match, de demander à un mec de changer de rôle et tout, etc.
Adaptation.
Mais être au moins sûr que le gars maîtrise son sujet, quoi.
On l'avait dit dans l'avant-match, et moi je le dirais toujours pour le très haut niveau, on peut parler tactique autant qu'on veut, les milieux de terrain et tout, mais il n'y a qu'une seule chose qui te permettra de passer des tours, de gagner des doubles confrontations, etc. C'est ton efficacité dans les deux surfaces. Le PSG marque deux buts et perd. C'est impossible à domicile. C'est impossible. Donc moi, ce que j'attends de Luis Enrique, c'est la stabilité émotionnelle et surtout, c'est un focus clair sur les forces de l'équipe et donc jouer un petit peu plus bas et leur faire mal en transition et des contre-attaques. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller dans un combat tactique là-bas à Barcelone pour avoir la possession 60-50? Non,
ils le refusent, le combat. Bon, les Barcelonais le refusent.
Mais oui, ils ont été tellement plus intelligents. Joue un petit peu plus truc. Tes temps faibles, qu'on va considérer temps faibles en tout cas dans la possession, peuvent te servir pour leur faire mal sur chaque action. Voilà, sur des relais avec Vitinha, tes flèches qui courent. Parfois, c'est aussi simple, le foot. Quand tu t'es fait bananer comme ça, t'as aussi le droit de montrer un petit peu d'humilité. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je pense qu'il n'est pas capable. Et donc, jouer sur les forces de ton effectif. Mbappé, il n'a pas une course dans le match. Comment c'est possible? Eh ben, c'est la faute du coach. Donc, c'est pas complètement que la faute du coach, t'as raison, mais il s'est tellement trompé dans ce qu'il a voulu proposer avec son équipe qu'il a le droit de se réveiller, quoi, le mec.
Il a le droit. Voilà pour ce débrief du match aller, cette preview du match.
Attends, contre... score, il se qualifie ou pas?
Attends, on vous rappelle déjà. Attends, mais ça allait venir après.
Je suis stressé, là.
J'allais annoncer déjà que toutes ces émissions FT Sport sont disponibles en podcast. Donc, voilà, si vous voulez l'écouter dans le métro et pouvoir fermer votre page plutôt que YouTube parce que ça c'est très relou, vous allez sur Spotify, Deezer ou autre et vous écoutez en podcast.
YouTube Premium, gros.
Et YouTube Premium.
Non, mais YouTube Premium, comme ça t'as ton truc qui reste. Alors, je dis ça, c'est mais il paraît.
Il est peut-être temps que j'investisse, en effet. Bon, les gars, on se projette sur le prono, votre prono déjà du match retour, le score exact, s'il vous plaît, et ça va aller avec la qualification. Thomas, je commence par toi.
Allez, j'ai parlé d'exploit, moi, donc honnêtement, j'y crois pas. Quand tu penses à un exploit, c'est que tu crois pas des masses. Bon, le truc, c'est qu'on va passer la soirée ensemble, on va regarder le match, on va débriefer à 23h s'il n'y a pas de prolongation.
Débrief en direct après le match, on le rappelle, très important.
Si pour une fois, on peut avoir un débrief du PSG au printemps avec le smile, je suis preneur. Donc,
tu sais qu'on en a fait qu'un seul et le lendemain, la France était confinée, je sais pas si tu te rappelles.
Ah bon?
Ouais,
c'était débrief, PSG Dortmund?
Ouais, PSG Dortmund, je sais pas si tu te rappelles, ou je dis le lendemain, mais 2-3 jours après, on était tous chez nous et bloqués. Ah ouais,
c'est la dernière match de Neymar, en même temps, il n'y avait pas de supporters. Le score, alors.
Allez, un score.
Le parieur dit 2-1 Barça. Le rêveur, le fan.
Le fan.
Dit 2-0 Paris.
2-0 Paris, donc une qualification.
Moi, j'allais te dire, mais c'est un pari de supporter, tu vois, c'est pas du tout objectif. 2-1 PSG au retour, mais tu perds en prolongation.
Oh là là, terrible.
Tu perds en prolongation. Moi, je vois un match nul de partout. Et le Barça qui passe parce que j'ai vu une défense trop fébrile et des hommes trop marqués. Voilà pour ce débat sur PSG Barcelone. On se termine avec un petit mot quand même sur la perf de l'OM qui est allé arracher la défaite, ça se dit pas du tout.
Mais si, c'est l'idée, t'as raison.
C'est exactement ça qui a sauvé
les pots cassés.
Ils sont en vie.
Voilà. Allez, petit focus sur l'OM face à Benfica. L'OM s'est donc incliné hier soir en Ligue Europa, 2-1 au stade, à l'Estadio de la Luz du côté de Benfica. On va voir le box score déjà avec l'ouverture du score de Rafa, le but de Di Maria et puis la réduction du score sur une énorme erreur du défenseur de Benfica qui permet à Marseille de revenir à 2-1. Les Olympiens sont encore en vie, les gars. C'est ce qui en ressort, Manu. À l'image de ce match, il n'y a pas un monde où déjà, moi, je voyais l'OM marquer un but.
Alors, déjà, à la mi-temps, qu'il n'y ait pas 2 ou 3-0, tu te dis, c'est pas mal. Surtout quand tu vois, je crois que c'est sur le deuxième but de Di Maria, tu vois l'action collective, tu vois Marseille qui est complètement dépassé, tu te dis, bon, bah là, c'est le but qui va faire mal, derrière, ça va dérouler et tu vas repartir avec une valoche. C'est fou, en fait, c'était pas un grand match, il faut quand même le dire. Ultra domination de Benfica. C'est là que le foot est beau, c'est que cette équipe de Benfica est une très belle équipe de football, mais par contre, c'est une équipe qui mentalement est complètement atteinte. On a vu même un stade se retourner contre sa propre équipe.
Ronca à la fin du match, alors t'as gagné, mais parce que c'est un public de connaisseurs, ils savent.
C'est un public de connaisseurs, et il y a aussi l'idée du momentum de la saison. L'OM est vraiment pas bien en ce moment, mais alors le Benfica, ils sont en train de perdre leur titre de champion, avec la double confrontation contre le Sporting, aussi en coupe avec cette élimination. Bref, c'est en train de partir en vrille du côté de Benfica, et derrière, en vrai, quand tu te remets en tête les faits du match, tu dis même que l'OM aurait pu aller chercher le match.
Bah oui, si Harit avait fait un meilleur match, bien sûr.
Tu mérites absolument rien sur ce match.
Ce qui est sûr, c'est que dans la prévue avec Erwan à ma place, il avait été dit. Il y a une énorme différence technique. Il y avait une énorme différence technique. Sur les deux buts, la différence... Bah, en fait, l'OM n'est pas capable de faire ce type d'action, d'enchaîner passe, aller dans la profondeur. Des défenseurs qui se ratent, ça arrive à tout niveau. Mais en tout cas, on a vu cette équipe du Benfica pendant 50 minutes, là, 60 minutes, être plus technique, plus intense, vitesse d'exécution au-dessus. Bref, tout était dans leur sens. La grosse blessure de Merlin qui arrive. Ah, voilà. Franchement, c'est une fin de saison terrible pour l'OM. Ils sont arrivés avec une équipe de briques et de brocs, Jean-Luc Gasset. Fait comme il peut, mais c'est vrai, tu as raison de souligner que l'entrée de Unai dans cette deuxième mi-temps, où on l'a vu faire un match mais fantastique. Il a rien qu'avec son entrée et il est multiples changements de formation en cours de match. On a vu un Marseille qui s'est permis d'espérer un vélodrome en feu sur un match retour. Et ça, c'est totalement inespéré après la première
heure. Il a fait ce qui est utile dans un match de foot, c'est savoir casser des lignes. On le voit sur le but d'Aubameyang, même si Antonio Silva se rate complètement. C'est enfin une projection. Le milieu, on en parlait en preview, a été dominé, mais moi je pensais pas que c'était autant le néant, que ce serait autant le néant. Quand Veretout arrive,
Veretout il a fait son match, ça va,
oui,
encore.
Mais
bon, rien de fou,
mais
hein,
y a pas un gars
Harit,
qui peut se projeter.
Ce qui m'énerve c'est que t'as la parfaite comparaison Rafa Silva Neves d'un côté, c'est des joueurs intelligents, c'est pas des joueurs qui font 10 000 touches de balle, qui sont efficaces, qui sont collectifs. Amin Harit, Mbanya, Luis Enrique. S'ils touchent pas le ballon 15 fois, en fait, c'est genre, je le donne pas, quoi. Tu vois, jamais la bonne décision, jamais dans le bon tempo. C'était tout petit joueur, on l'a dit dans la preview, c'est pas des joueurs pour l'Olympique de Marseille.
Vous avez vu les notes, hein, quand même. Luis Enrique 2, Mbanya 2. Mérite. 2, mon gars.
Ouais, 2, ouais.
2 dans un match aller d'Europa League avec un petit peu d'espoir, etc., etc. Mais encore une fois, c'est
minable.
Tu vois, c'est incroyable parce qu'on peut les démolir. Franchement, on peut les démolir.
Bien sûr.
Mais le Benfica, comme ils sont arrêtés de jouer après le deuxième but, c'est inexplicable. Alors Marseille élève un petit peu, mais t'as la sensation que Benfica a complètement laissé partir ce match à volo.
Mais même sur le but, parce qu'elle est belle. Moi, je suis d'accord avec toi. Unai change les choses quand il rentre, mais la passe. La passe, c'est pas
la passe.
C'est pas non plus.
C'est pas la passe Ligue des Champions d'Antonetti, hein.
C'est pas du Zizou Prime, tu vois. Et ce que nous fait.
Tu l'as vu la nana?
Ce pauvre Antonio Silva. Antonio Silva. C'est bien. C'est là que tu vois quand même qu'il y a une énorme.
Il est très jeune.
Il est surtout
ça arrive,
très bon.
Ça arrive.
Il est très très bon. C'est un mec qu'on pourra retrouver au PSG, pourquoi pas, dès cet été. Non mais sans blague, c'est un mec qui va animer le mercato en tout cas de cet été. Mais franchement, c'est vrai que cette équipe s'est complètement écroulée. On en avait parlé, hein. Schmidt il a eu les mouchoirs blancs, tu sais, comme au Real, là, il y a quelques semaines. Il est beaucoup tensé. Le public s'est retourné contre son équipe aussi. Et tu dis, quand tu vois comment ce public, il se retourne contre son équipe, les effets psychologiques que ça a, tu dis, ouais, comme t'as dit, un vélodrome en fusion, et peut-être que Benfica, caca culotte, est sur un coup de dé. Si Harit met sa reprise, c'est peut-être plus le même match. Aubameyang, qui avait quand même un pénalty,
on peut quand même dire que
coup franc.
Aubameyang, son 10e but en Europa League, il fait une saison de compétition européenne extraordinaire. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Dembélé avec ce truc. Bon, Aubameyang fait exactement ce que tu imagines sur l'appel. Bah ouais, il va enrouler là-bas. Hop, il va marquer, il n'y a rien à dire. Ouais, il a marqué, bravo, gros, voilà, il n'y a rien à dire. Non, l'autre. Bon, bref, on va pas parler de lui parce que ça m'énerve de toute manière. Je lui ai envoyé de toute façon un message là à Ousmane, je lui ai dit gros, voilà. Rien d'autre.
Viens, on va bosser les frappes enroulées un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait se mouiller la nuque entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa.
C'est à Liverpool.
Ah, Liverpool, ils n'étaient pas prêts, visiblement. Pour se projeter sur le match retour, on prend déjà juste la déclat de Jean-Luc Gasset qui dit les 30 dernières minutes nous donnent de l'espoir, c'est ce qu'on dit. On sait devant qui on va jouer, où on va jouer et qu'on peut être porté. On adore jouer dans notre stade devant un public en feu. Les joueurs adorent ça. Alors moi, ce que je retiens de cette déclaration, c'est qu'à un moment, il peut s'appuyer sur rien si ce n'est le public. Il y a quand même ça qui ressort.
Le 12e homme.
Alors on sait que Marseille, c'est exceptionnel et qu'ils vont se transcender. Hein. Mais il y a rien qui a été donné dans ce match aller où tu peux dire bon allez, on peut s'appuyer sur notre milieu.
Quand tu vois le niveau technique de cet Olympique de Marseille là, faut que tu joues sur tes forces. Alors je sais même pas si c'est l'une de leurs forces, mais envoie des mecs qui vont pour casser des gueules. Non mais clairement, je suis désolé, tu vois, on aime le beau foot, on aime le beau jeu, on aime le foot, on est là pour en parler, etc. Sinon, on débrieferait la Ligue 2 et le National, même si c'est des championnats que j'adore. Non mais c'est vrai,
ça
tu vois.
Ça tire sur ton championnat préféré,
non,
bravo.
Non mais même si c'est championnat que j'adore, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, ta seule solution quand t'es l'Olympique de Marseille, vu le déficit technique que t'as, envoie des soldats, envoie des guerriers, envoie des mecs qui vont mettre du bois, donner le ballon à Aubameyang. Non mais c'est une vision très réductrice du football.
Solide derrière, c'est un peu une flèche devant.
C'est ce qu'a fait Gasset pendant le match quand il passe à 5 derrière. Au bout d'un moment, et bizarrement, quand il passe à 5 derrière, c'est là que c'est là que t'as une meilleure animation.
Drôle de sport quand même.
Franchement, le foot des fois.
Les gars,
c'est dur à analyser.
On finit avec. Je suis allé prendre les codes de la qualification. L'OM est à 2,90, Benfica à 1,35. Rapidement, qui va se qualifier?
Si tu respectes le foot, Benfica passe tous les jours. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, en plus, si t'es par ailleurs, j'ai plus envie de jouer une cote à 2,80 qu'une cote à quoi, 1,35.
2,90, 1,35.
Avec des mecs qui sont capables de se chier dessus en 20 minutes, tu vois. Donc,
Thomas,
ouais, j'en parlais avec Erwan tout à l'heure pour avoir un petit peu le son de cloche des fans marseillais. Ils sont exactement dans le même truc que nous, c'est-à-dire qu'il y a de l'optimisme. En fait, ils y croient un tout petit peu. Ils connaissent la valeur de leur équipe, qui est catastrophique. Ouais. Mais il y a ce petit truc, il y a le parfum de la Ligue des Champions. Et puis, il y a quand même le fait que 1-0, tu vas en prolonger, quoi. 1-0.
C'est vrai.
Un vieux but sur corner, t'es solide. C'est pas impossible. Et donc, tout sera, au mental, à l'intensité. Donc, il y a une possibilité qu'il passe. Moi, j'ai envie de te dire que Marseille va le faire.
Faudrait
être
solide.
Les grandes soirées de Ligue des Champions, d'Europa League, c'est lourd. Ouais, va être très, très solide.
C'est pas l'une de leurs qualités.
J'ai envie de te dire qu'ils vont le faire. Comme ça, on aura peut-être un club français qui va passer, hein. Parce que la semaine a été terrible. Hein.
Parce que Lille aussi s'est inclinée face à Aston Villa. N'hésitez pas à donner en commentaire qui vous voyez vous qualifier déjà entre le PSG et le Barça et entre Benfica et l'OM. On se termine par un petit jeu, les gars. Comme chaque semaine, j'ai zoomé un joueur et vous allez devoir me dire qui est ce joueur. Vous avez le droit de donner des noms à la volée. Et puis nous, après, on se retrouvera donc mardi prochain après PSG Barcelone en direct sur FT Sport pour le grand débrief de cette qualification. Allez, on part pour le jeu. C'est parti. Donc, on a zoomé sur un maillot. C'est un joueur en rapport avec le match de l'eau.
Steve Marley.
Steve Marley.
Ouais, Steve Marley, oui. Du Restar de fou. Ah, bravo,
formé au Restar. Je voulais un jeu pour que Manu gagne une fois.
La semaine dernière, c'est lui qui a gagné. Hein.
C'est vrai?
Oui, la semaine dernière,
Sonny
Anderson, la semaine dernière, ça fait 2-0.
Les mêmes stats que l'OM, hein, je te le dis. Hein.
Steve Marley, formé au Red Star, qui a fini au Red Star d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Qui a eu 50 ans cette année, Steve Marley.
Oh la vache, je ne me rajeunis pas, ça.
C'est par Lyon et Marseille.
Alors, rien à voir, mais je me suis fait les matchs d'équipe de France, tu sais, 2001, 2002, 2003. France-Écosse. Et Steve Marley joue.
23 sélections, il a quand même, j'ai vu.
Ben ouais, mais après, c'était un super joueur. Et Steve Marley était sur le terrain dans la grande époque de Zizou, la fantastique.
C'est un super match, je crois.
Extraordinaire. C'est l'un des plus beaux matchs de Zizou. Alors, c'est un match, bon. Mais il est extraordinaire. 2001.
Avant 2002, c'est ça. L'année incroyable.
L'année extraordinaire. Fantastique.
On fera une émission pour en parler. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief
de France-Écosse 2001.
Pour ce débrief de PSG Barcelone. On se retrouve donc mardi prochain. Notez le rendez-vous juste après le match en direct sur FT Sport, sur YouTube et Twitch.
Bien sûr.
YouTube et Twitch pour le débrief. Donc, est-ce que le PSG va se qualifier ou sera éliminé? Allez, on a un week-end pour s'en remettre et on se retrouve mardi prochain. Ciao. Et merci à Polo en régie, évidemment.
Surtout.
Surtout, tout seul.